Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et à la une de l'actualité de ce samedi 16 janvier 2021. La compagnie Emirates suspend ses vols pour la côte est australienne, ce qui complique encore un peu plus le retour d'environ 30 000 Australiens toujours coincés à l'étranger. Aux États-Unis, Joe Biden annonce un plan de relance colossal, 1 900 milliards de dollars américains. Et puis toute la France est désormais placée sous couvre-feu dès 18 h. On ira voir sur place comment ils vivent. L'attente risque d'être encore plus longue pour les quelques 30 000 Australiens qui cherchent à rentrer au pays. L'une des rares compagnies internationales majeures qui dessert encore l'Australie, Emirates, vient d'annoncer qu'elle suspendait ses vols pour la côte est australienne. Les derniers vols Emirates affrétés depuis Dubaï pour Sydney, Melbourne et Brisbane partiront aujourd'hui. Après, ce sera fini, tous les autres vols sont pour l'instant suspendus. C'est le résultat en fait de l'annonce il y a quelques jours par le gouvernement australien de la baisse du nombre de passagers internationaux acceptés dans les aéroports. Emirates s'est donc ajusté, mais la nouvelle bien sûr laisse une partie des clients sur le carreau. C'est par exemple le cas de Ryan Sims qui, comme vous pouvez vous en douter, est très déçu que son vol ait été annulé.
The real frustration comes with the Australian government more so than anything. Like, we're 12 months through a pandemic, and it feels like for Australia, things are only just, you know, they're only just coming to terms with the fact that they've got citizens overseas that are struggling. Like, you know, we've got, we're the sixth largest country in the world for area, and we're saying that we can't find, you know, some space to set up a few dongers and for stranded Australians. So it's quite frustrating.
À Brisbane, il semblerait que le variant britannique du coronavirus a été contenu. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite par le gouvernement du Queensland. Il n'a recensé aucun nouveau cas local de Covid aujourd'hui. Le médecin en chef du Queensland, Janet Young, se félicite donc de ces nouvelles encourageantes.
This is all very good news. It means that I believe due to very quick work by a lot of people and by the people of Greater Brisbane that there is every chance we have contained this cluster. Little bit too early to say. We've still got to wait for that 14 days from when people had contact in the community before we can be certain, but it is looking promising.
Pas de nouveaux cas de transmission locale non plus dans l'état du Victoria et ce pour le 10e jour consécutif. Du coup, les frontières commencent tout doucement à se rouvrir. Dès ce soir, le Grand Brisbane va être classé en zone orange. Ça veut dire que les habitants du Victoria qui sont actuellement à Brisbane vont pouvoir faire une demande pour rentrer chez eux. Ils devront quand même, à leur retour, s'isoler et se faire dépister pour le Covid au cours des trois premiers jours de leur retour dans le Victoria. Daniel Andrews, qui dirige l'État, a également indiqué qu'il espérait ouvrir très prochainement la frontière aux habitants de Sydney.
We will get people back based on advice, always and only based on advice, and we'll do it as quick as we possibly can. This is not a matter of locking Victorians out of their own state, it's about keeping the virus out of our state. That is so critically important. It's not about being popular, it's about doing what must be done to keep our state safe.
En Australie, la pandémie continue de perdre du terrain. En revanche, au niveau mondial, le coronavirus fait toujours des ravages. C'est officiel, maintenant 2 millions de personnes sont mortes dans le monde après avoir attrapé le Covid-19. Et la situation ne s'améliore pas, bien au contraire, puisque il n'a fallu que 3 mois pour passer de 1 à 2 millions de morts du coronavirus, alors qu'il avait fallu quand même 9 mois pour atteindre le premier million de victimes. Et parmi tous les pays concernés, le plus lourdement touché, c'est bien sûr les États-Unis. Joe Biden, qui va devenir président dans quelques jours seulement, vient de promettre d'augmenter significativement la production des seringues pour accélérer la campagne de vaccination aux États-Unis. Des milliers de centres vont également être construits à travers tout le pays. Et pour être sûr que ces directives sont bel et bien appliquées, Joe Biden prévoit même d'invoquer le Defense Production Act.
Our plan is as clear as it is bold. Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. Mobilize more medical teams to get the shots in people's arms. Increase supply and get it out the door as soon as possible. This will be one of the most challenging operational efforts ever undertaken by our country. But you have my word that we will manage the hell out of this operation.
En plus de la crise sanitaire, il y a aussi la crise économique. Pour sortir les États-Unis du marasme actuel et lui redonner un petit peu de dynamisme, Joe Biden a également annoncé un plan de relance colossal, 1900 milliards d'euros. L'objectif, c'est de régénérer l'économie en relançant la consommation. On va écouter l'analyse de Sylvie Matelli. Elle est économiste et directrice adjointe de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
C'est un plan qui vise à éviter l'effondrement de l'économie américaine alors que la situation sanitaire ne s'améliore pas vraiment. Et on est dans ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire on est dans une logique où on distribue de l'argent directement aux ménages, directement aux foyers, pour qu'ils puissent survivre pour les plus défavorisés, vivre pour les gens qui ont perdu leur emploi et où on garantit qu'ils vont avoir que l'État va pallier à leur perte de revenus. Et donc, ils peuvent continuer à consommer. Donc, on est dans cette logique et on est encore dans un plan d'urgence. Et ce que ça nous dit, c'est que la situation n'est vraiment pas bonne et que Joe Biden arrive, prend le pouvoir la semaine prochaine dans une situation pandémique et économique qui est assez inquiétante aux États-Unis.
L'Europe, qui jusqu'à présent avait assez peu limité les déplacements dans l'Union européenne, mais aussi avec le reste du monde, vient de changer de stratégie. À partir d'aujourd'hui, il faut être muni d'un test négatif au Covid-19 pour entrer dans l'Union européenne depuis un territoire qui n'en fait pas partie. Les autorités cherchent ainsi à limiter la propagation de nouveaux variants plus contagieux à travers le continent, alors que des nouveaux foyers ont déjà été détectés dans plusieurs pays européens. On fait le point avec Olivier Sherman.
Les voyageurs venant de pays extérieurs à l'Union européenne devront tout d'abord présenter un test PCR négatif au départ et s'engager sur l'honneur à rester isolé pendant 7 jours une fois arrivés en France. Et à la fin de ces 7 jours, ces voyageurs devront présenter un deuxième test PCR. Pour les pays où il n'est pas possible de réaliser un test avant d'embarquer, un laissez-passer consulaire va être accordé par les ambassades françaises pour motif impérieux. Et un test sera réalisé à l'arrivée, suivi d'un isolement obligatoire de 7 jours dans un hôtel désigné par l'État. Les mesures concernent également les Français qui reviennent de l'étranger. Concernant les pays de l'Union européenne, y compris l'Irlande et le Danemark, deux pays très touchés par la pandémie, rien n'est encore décidé. La décision sera concertée au niveau européen et sera ensuite prise lors d'un sommet qui aura lieu jeudi prochain. En cas de nouvelles mesures pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne, il y aura de toute façon des exceptions avec des protocoles sanitaires spécifiques pour les frontaliers, les transporteurs routiers ou encore les agents des compagnies de transport.
En Indonésie, des milliers de personnes ont été relogées dans des abris temporaires après l'apparition d'un séisme de magnitude 6.2 qui a frappé l'île de Sulawesi. Plus de 40 personnes sont mortes, au moins 600 autres ont été blessées par ce séisme qui a détruit aussi des bâtiments et provoqué des glissements de terrain. Les autorités indonésiennes font actuellement tout leur possible pour récupérer les personnes coincées sous les décombres. Ils sont également appuyés par des équipes de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'explique Jens Lerke, il est porte-parole à l'ONU.
National authorities have so far mobilized 4 helicopters, tents and mattresses, special kits for children and the elderly, food and medical assistance including orthopedic and psychosocial support.
En Angleterre, c'est une boulette qui pourrait réduire des années d'enquête judiciaire à néant. Des milliers de documents ont été effacés par erreur d'une base de données vitale de la police britannique. On en parle avec Muriel Delcroix, correspondante à Londres pour RFI.
Empreintes digitales, ADN, casier judiciaire, au total 150 000 documents ont été effacés par erreur d'une base de données vitale pour la police britannique. Selon le quotidien The Times qui a révélé l'affaire vendredi, les conséquences sont potentiellement catastrophiques. Une source policière a prévenu que la suppression de ces données pourrait ainsi compromettre de futures enquêtes et permettre à nombre de criminels de passer à travers les mailles du filet. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur assure que les données effacées ne concernaient que des suspects relâchés sans avoir fait l'objet de poursuites. Néanmoins, l'opposition travailliste s'inquiète des graves dangers posés par cette erreur et dénonce l'incompétence du gouvernement. Le Labour appelle d'ailleurs la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, à venir s'expliquer publiquement. La bourde est d'autant plus embarrassante que le gouvernement de Boris Johnson avait insisté sur le fait qu'après sa sortie de l'Union européenne, Londres aurait suffisamment d'informations criminelles, et ce malgré la perte de son accès au mandat d'arrêt européen. Or, 40 000 alertes concernant des criminels européens ont déjà disparu des fichiers de police britanniques depuis la signature de l'accord post-Brexit. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Et à partir d'aujourd'hui, ce ne sont plus seulement quelques départements, mais toute la France qui est placée sous un couvre-feu qui commence dès 18 heures. Alors, qu'en pensent les Français ? Lucie Boutelot pour RFI est allée leur poser la question.
J'aurais pu faire de courses en sortant du boulot, mais pour le moment je suis à temps partiel en fin de journée, donc c'est pénible, mais moins que pour d'autres, pour qui la fermeture des magasins à 18h, ça va vraiment plus compliqué.
Ça change rien puisqu'on s'est adapté, on s'adapte malheureusement, mais oui, c'est plus pour la vie sociale que ça change. C'est la fin des apéros.
On est tranquille parce que nous, on travaille à la maison et vous voyez, on peut sortir dans la journée. Donc, ça ne vous pose aucun problème d'organisation. Moi, je pense plus aux gens qui travaillent et aux commerçants.
Mon fils a 5 ans, mais oui, ça serait bien de gagner une heure. Les heures qu'on a perdues avec le couvre-feu, de les regagner le matin avec lui et lui apprendre que bah, voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
J'avais un créneau entre 18h et 20h pour faire le sport et là, en fait, je peux plus. Enfin, si je peux, mais je dois le faire plus tôt, sauf que comme je travaille, bah, je peux plus en fait.
De toute façon, on sort pas. On sort jamais, donc ça va pas changer grand chose.
Moi, j'ai un petit garçon. Donc, il va certainement falloir que j'aille le chercher plutôt à l'école. Ça m'oblige à me réorganiser en fait pour ma journée de travail.
La garderie va être supprimée, donc il va falloir aller chercher les enfants à 4h30, voilà, et puis il y a le travail à faire, et puis les courses, et puis voilà. Donc on est bon à travailler et à s'occuper de nos gosses et à faire les courses, et puis c'est tout. Pas très amusant comme période.
Et pour finir ce bulletin, un petit point sur la météo de ce samedi en Australie. 34 degrés et grand soleil à Perth. 23 degrés à Adélaïde, en revanche où le ciel est plutôt nuageux. Des risques de pluie à Melbourne où il fait 20 degrés. En revanche, il fait très beau à Sydney et on compte au thermomètre environ 26 degrés. Jusqu'à 34 degrés à Brisbane où le temps est à l'orage aujourd'hui. Et de l'orage aussi à prévoir dans l'après-midi à Darwin avec une température maximale attendue à 34 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.